Donc, on est de retour aujourd'hui pour notre podcast Discussion d'affaires avec mon ami Jonathan Léveillé. Comment ça va, Jonathan, aujourd'hui?
Ça va très bien, Antoine, et toi?
Ça va très bien. Très heureux de discuter avec toi. En direct, j'ai la chance cette semaine d'être en direct de la Californie et toi de Montréal. Donc, on fait ça à distance encore plus qu'à l'habitude, sur des horaires un petit peu différents, avec des sujets assez intéressants cette semaine. Donc, pour essayer de situer un petit peu l'audience aujourd'hui, comme on a fait la semaine dernière, on va aborder deux points, deux sujets qui ont capté notre attention, Jonathan et moi. Le premier est relié, encore une fois, à des recherches. Vous le savez, on aime les recherches sur le podcast Hypercroissance. On en parle très souvent. Une recherche qui parle des indicateurs, ou plutôt des points qui sont importants pour des conseils d'administration à regarder chez des CEO, chez des CFO, avant de les engager. Avant de les engager, donc on le sait, des fois tu peux être CEO de ton entreprise, président de ton organisation en étant fondateur, mais plus souvent qu'autrement, les entreprises de plus grande taille, les entreprises publiques, à un certain point, les gens qui vont les diriger vont être des gens de l'extérieur qui vont avoir été cherchés. Et l'étude qu'on a analysée, Jonathan et moi, est une étude qui montre un petit peu les traits de caractère au niveau personnel que les conseils d'administration regardent envers ces gens-là. C'est des traits assez intéressants. Donc, on va vous parler de cette étude-là. Et par la suite, on va parler du fondateur des bureaux dans lesquels je suis présentement, Adam Newman, qui a fondé les bureaux de WeWork et qui a eu des hauts et malheureusement a eu également des bas. Il y a quelques années de ça, il y a eu une série aussi qui est sortie sur Apple à son sujet. Bref, c'est un personnage assez coloré et... Eh bien, Jonathan me l'a fait la nouvelle il y a quelques semaines de ça. Il s'est relancé dans des projets d'affaires. On va en discuter un petit peu ensemble aujourd'hui. Des sujets assez intéressants, Jonathan, là, je pense, pour la discussion des prochaines minutes.
Oui, je pense que ça va être vraiment intéressant d'en discuter. Puis, il y a pas mal de choses controversées, je pense, qu'on va discuter dans l'épisode du podcast aujourd'hui.
Exactement. Mais commençons avec cette étude des traits de caractère que les conseils d'administration vont regarder pour engager des CEO, pour engager des CFO. Donc, pour essayer de donner un petit peu de contexte à notre audience aujourd'hui. Encore une fois, c'est une étude que j'ai vue sur le site de Business Insider, mais qui a été faite par une recherche par des gens de chez Harvard, encore une fois. Harvard Business School, qui ont fait une recherche sur 5 000 exécutifs. Une recherche qui a été faite pendant 17 longues années, donc de 2000 à 2017. Et ils voulaient trouver un petit peu les traits de caractère, ce qui était important quand on recherche, encore une fois, je le répète, un CEO et un CFO. Ils se sont rendus compte que l'intelligence émotionnelle, c'est un des points en ce moment les plus recherchés. C'est un des points les plus recherchés chez les dirigeants. Donc, au-delà de l'expertise, au-delà du réseau de contact, au-delà du leadership que la personne peut avoir, du charisme que la personne peut avoir, se mettre dans les souliers de quelqu'un d'autre, avoir de l'empathie, comprendre ce qui est en train de se dérouler avec des collègues de travail, comprendre ce qui est en train de se dérouler avec des gens qui ont des backgrounds différents des nôtres à la maison, c'est ce qui est le plus recherché pour des chefs d'entreprise. Jonathan, ça t'a-tu surpris un peu cette étude-là?
Si tu m'avais posé la question il y a 5 ans, je te dirais oui, mais aujourd'hui, particulièrement au Québec, parce qu'il y a des gens qui ont démocratisé un petit peu tout ce qui est l'intelligence émotionnelle, qui était un terme, le fameux soft skills, qui est un terme qui était pas mal inconnu il y a quelques années. Je dirais, il y a 5 ans, je te dirais, ben voyons, non, ça n'a pas de sens. Mais aujourd'hui, d'être un peu plus connaissant de ça, que ça soit un peu plus démocratisé, puis qu'on commence à observer un petit peu les gens autour de nous, je pense qu'effectivement, ça a un grand impact sur la capacité d'exécution puis d'arriver à des résultats, d'avoir une grande intelligence émotionnelle, peu importe le poste, mais particulièrement dans des postes d'influence ou de leadership, CEO, CFO, COO, dans le fond, tout ce qui est direction, je pense que ça peut avoir un grand effet de levier au bout de la ligne. Puis là, c'est impressionnant de voir certaines métriques rattachées à ça parce que dans l'étude, ils vont même aller pousser un petit peu de données sur à quel point les gens peuvent être plus... en anglais, successful, qui peut avoir de la réussite en arrêt de ça. Et c'est intéressant à décortiquer comme statistique, là.
Ben oui, puis peut-être pour essayer de donner un petit peu de contexte. Et ça, je pense que c'est intéressant aussi. Le contexte, à la base, c'est qu'au final, on vit dans une société maintenant beaucoup plus diversifiée qu'avant, beaucoup plus inclusive, où est-ce que les femmes ont beaucoup plus de place qu'elles pouvaient en avoir il y a peut-être 20 ou 30 ans de ça. Et tous ces sujets-là mis ensemble démontre qu'on est capable de voir qu'ils ont une importance capitale, ces sujets-là ensemble. Et c'est à cause de ces sujets-là, à cause de cette diversité, à cause de cette inclusion-là, qu'au final, les conseils recherchent des gens excessivement fort au niveau émotionnel. Parce que tu te dois, en tant que chef d'entreprise, pardonnez-moi mon anglicisme, en 2022, de dealer avec tout ça. De dealer avec tout ça et de comprendre ce qui se passe. Si tu parlais de métrique, je vais en sortir une. C'est peut-être elle également qui a capté ton attention, Jonathan. Mais ils disent littéralement que les managers, donc les gens en charge, les gens qui sont des dirigeants, habituellement, là, ils risquent d'avoir 11% plus de chances d'avoir du succès et de compléter des projets d'envergure que les gens qui ont une intelligence émotionnelle un petit peu plus faible au final. Donc, c'est des chiffres quand même assez importants qui sortaient d'un endroit à l'autre. Et puis, je te pose une question, puis après, on regardera un petit peu c'est quoi ta réponse rapidement. Si je te pose une question de, selon toi, c'est quoi l'intelligence émotionnelle? Qu'est-ce que tu me répondrais, Jonathan?
Je dirais simplement que c'est la capacité à lire les autres puis à se mettre vraiment dans leurs souliers à eux et d'avoir un peu ce côté-là empathique pour comprendre ce qui se passe de leur côté. Puis après ça, d'être capable de les amener dans la direction où ce qu'on voudrait aller, toujours d'une manière là, politiquement correcte et non abusive. Là. Mais je pense que c'est cette capacité-là à interagir avec les gens puis de bien connecter avec eux au bout de la ligne. Puis ça vient, je pense, s'interconnecter un petit peu avec le concept du charisme. Il y a une dame aux États-Unis qui a sorti un livre justement sur tout ce qui était le non-verbal. Et je pense que le non-verbal vient beaucoup jouer dans l'intelligence émotionnelle, donc autant dans notre capacité à émettre un non-verbal qui est bien compris par les gens, qu'à l'inverse, à comprendre le non-verbal des gens nous aide beaucoup à se mettre dans leurs souliers ou à capter des petits signaux pour voir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Parce qu'on le sait que la majeure partie de la communication qu'on fait, c'est pas les mots, c'est tout ce qui vient autour qui va faire une grande différence. Et sa définition-là de cette dame-là par rapport au charisme, je la trouvais quand même intéressante et ça se rattache un petit peu à l'intelligence émotionnelle. Elle, ce qu'elle disait, c'est que la définition du charisme, c'était un mélange parfait ou une balance parfaite entre la capacité vraiment là de froidement exécuter des choses, donc d'être ferme puis d'être vraiment fiable dans ce qu'on dit qu'on allait faire, qui venait s'axer de l'autre côté à la capacité d'avoir une certaine chaleur dans nos relations interpersonnel avec les gens. Donc, d'avoir une grande capacité d'exécution, mais d'avoir une grande capacité de l'autre côté à connecter avec les gens, à avoir de la chaleur dans nos connexions, à lire le non-verbal des gens, à émettre aussi un non-verbal qui est conséquent ou qui est positivement perçu de l'autre côté. Et cette balance-là des deux côtés, le côté un peu plus froid, le côté un peu plus chaud, donnait la définition du charisme selon cette personne-là que je trouvais intéressant. Mais tout ça vient tourner également autour du concept d'intelligence émotionnelle, de est-ce qu'on est capable d'avoir un certain charisme, est-ce qu'on est capable de projeter un non-verbal qui est cohérent avec ce qu'on veut dire aussi, mais à bien lire le non-verbal des gens. Fait que je pense que c'est un mélange un petit peu de tout ça, l'intelligence émotionnelle. Et il y a des très bonnes lectures maintenant qui peuvent être faites ici au Québec. Entre autres, il y a une sommité dans tout ce qui est l'intelligence émotionnelle, communément appelée les soft skills en anglais. Il y a Benoît Chalifoux qui a dédié une bonne partie là, des dernières années de sa vie là, récemment à comprendre c'était quoi les soft skills, l'intelligence émotionnelle et en faire des formations, en faire entre autres un livre là, qu'il a lancé dernièrement qui est Être à son meilleur, un très bon livre que je vous recommande, qui nous permet de mieux comprendre c'est quoi l'intelligence émotionnelle et comment réussir à s'améliorer à travers ça. Puis il y a un autre livre également intéressant en anglais, Emotional Intelligence 2.0 de Richard Boyadzis, excusez-moi si je dis peut-être mal son nom, mais ce livre-là donne un code d'accès pour aller remplir un test, un questionnaire en ligne qui nous permet de savoir un petit peu où est-ce qu'on se situe en termes de capacité d'intelligence émotionnelle. Et ça va nous donner également des outils pour explorer des pistes pour s'améliorer là-dedans. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a peut-être 5 à 10 ans, c'était des termes qui étaient peu connus, les soft skills, l'intelligence émotionnelle. Et aujourd'hui, on arrive à un stade où il existe des bons ouvrages qu'on peut lire là-dessus, qu'on peut s'éduquer, mais qu'il existe également des outils pour s'auto-diagnostiquer un petit peu puis de voir comment qu'on peut progresser par la suite en avant de nous. Là.
Puis parlant de ça, de qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle, parce que tes réponses étaient pas tellement loin de ce qu'on est capable de retrouver dans l'étude. Et un des premiers points relié à l'intelligence émotionnelle, c'est un petit peu ce que tu as mentionné, c'est ce qu'on appelle en anglais le social awareness ou la capacité de se mettre littéralement dans les chaussures de quelqu'un. C'est de se mettre dans les chaussures de quelqu'un et de comprendre et d'avoir de l'empathie pour cette personne-là. Et ça, on peut penser qu'on est bon, mais plus souvent qu'autrement, on ne l'est pas. Ce n'est pas facile de se mettre dans les souliers de quelqu'un d'autre, surtout, et c'est très intéressant qu'on est capable de le voir dans l'article, quand les gens viennent, encore une fois, je le répète, de milieux différents, de backgrounds différents, de cultures littéralement différentes. Et ça, c'est quelque chose qui est excessivement cherché présentement par les conseils d'administration quand ils vont aller choisir leurs nouveaux dirigeant. Une autre partie également maintenant de l'intelligence émotionnelle est reliée à comment tu es capable de gérer tes relations avec les autres, mais également ta capacité à communiquer de manière, on va dire, utiliser le terme en anglais, le efficiente, et de travailler avec les autres. Donc, comment es-tu capable de travailler avec les autres, surtout dans un monde dans lequel on vit maintenant? Est-ce que tu es capable de bien faire avancer des projets avec tes collègues, même en les voyant quasiment jamais? Est-ce que tu es capable de bien communiquer avec eux? C'est toutes des choses qui sont vues et qui sont décortiquées un petit peu dans la recherche qu'on vous parle aujourd'hui, dans l'article qu'on vous parle concernant l'intelligence émotionnelle. Et je crois que nous, chefs d'entreprise, chaque personne qui nous écoute aujourd'hui, qui dirige une organisation ou vous qui êtes dans un poste de cadre, c'est des questions qu'on doit se poser. Parce que si c'est des choses importantes selon des conseils d'administration, aller chercher quelqu'un qui est bon avec l'intelligence émotionnelle. Habituellement, ces gens-là ont beaucoup d'informations, ils ont beaucoup de recherches, ils ont beaucoup de data qui prouvent pourquoi ça peut être important pour une organisation d'avoir un leader qui est très, très fort avec les autres. Et si eux prennent des décisions comme ça, on n'a peut-être pas besoin de réinventer la roue et de regarder un petit peu et de comprendre pourquoi ils le font et de l'appliquer également à nos entreprises.
Effectivement, puis il ne faut pas oublier que tout rôle d'un dirigeant, c'est toujours d'amener un ensemble de gens ou d'êtres humains vers un but commun. Donc, c'est important d'être capable de motiver les gens au maximum. Et je pense que sans cette capacité-là à connecter avec les gens ou sans cette capacité-là d'avoir une haute intelligence émotionnelle, c'est faisable de se rendre à destination, mais il va y avoir beaucoup plus de friction, beaucoup plus de difficultés à s'y rendre. Donc, plus que je pense qu'on a d'intelligence émotionnelle ou plus qu'on la développe, plus qu'on se donne les bons outils dans notre coffre à outils pour devenir un meilleur leader puis de mieux diriger les gens dans une direction commune au bout de la ligne. Donc, je pense que c'est un concept qui est super important pour n'importe quel leader d'entreprise à lire, à s'éduquer, à faire des tests, à des fois rendre sa gang un peu plus connaissant de ça ou du moins commencer à connaître ces concepts-là, puis après ça, d'utiliser tranquillement des outils pour justement être capable de voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui, puis surtout de voir les nouveaux joueurs qui rentrent dans l'organisation, où est-ce qu'ils en sont là-dedans. Là. Entre autres, chez Open Mind, ce qu'on fait nous de notre côté, tous les gens qui passent dans le processus là, d'entrevue, on va faire des tests de profil psychométrique qui vont nous donner une petite idée à ce moment-là, les gens, est-ce qu'ils sont plus des gens avec une plus grande capacité dans des rôles d'exécution ou des rôles de leadership ou dans des rôles où ça va être plus un rôle social ou plus un rôle renfermé sur son soi-même dans le day-to-day. Et ça nous permet de voir est-ce que les gens sont plus forts en documentation ou être un peu plus cowboy de dire je vais contourner un peu les règles pour me rendre à destination. Donc, c'est un des exemples d'outils qui peut être très intéressant pour les organisations pour un peu mieux connaître les candidats dans le processus d'embauche. Donc, on peut jamais connaître un candidat à 100% là, du début jusqu'à la fin dans un processus d'embauche. Puis même des fois, après des mois ou des années dans l'organisation, on découvre des choses de plus qu'on n'avait pas vues au départ. Mais de prendre ces petits outils-là, de commencer à être habitué avec ça, je pense que ça nous donne une meilleure capacité à avoir des embauches à succès puis du moins avoir la meilleure ensemble d'humains possible pour se rendre à destination. Et l'intelligence émotionnelle fait partie d'un de ces concepts-là. Je pense qu'il faut appliquer puis s'éduquer à travers ça. Là.
Puis un des conseils très simples qui ressort dans l'article, allez prendre du feedback. Allez prendre du feedback avec vos pairs, mais surtout, si possible, allez prendre du feedback avec vos pairs de cultures différentes. Allez prendre du feedback de vos pairs de cultures différentes. Et c'est, il le mentionne, là, un des acteurs qu'on est capable de retrouver dans l'article. L'information que vous allez retrouver de gens qui viennent de milieux totalement, diamétralement opposé à vous au niveau culturel, va grandement vous aider à améliorer vos capacités reliées à l'intelligence émotionnelle. Donc ça, j'ai trouvé ça très, très intéressant. C'est des points, des questions que tu peux ne même pas te poser, mais de voir un petit peu que c'est des approches que des grandes organisations, que des gens qui font des recherches, qui ont beaucoup d'informations, du data sous la main vont faire, ça peut nous ouvrir les yeux sur quelques points. Donc encore une fois, on le répète, on va mettre ce très bon article dans les notes de l'épisode. Jonathan, on a un deuxième sujet également aujourd'hui. Adam Newman, fondateur, ou plutôt co-fondateur de WeWork. Personnage coloré, personnage controversé. Donc, peut-être, tu pourrais nous dire un petit peu plus ou nous donner un petit peu plus de feedback sur sa carrière, son CV, et nous dire qu'est-ce qu'il fait de ses jours, là, ces temps-ci, depuis qu'il a terminé son aventure avec WeWork.
Effectivement. Puis juste pour mettre un petit peu dans un cadre le personnage. Vous avez la chance d'aller voir une interview de lui sur YouTube. Vous allez voir, c'est un personnage extrêmement charismatique et qui a une intelligence émotionnelle très élevée, même des fois peut-être un peu trop, que ça peut en venir un peu dangereux. Et c'est ce qui fait que c'est un peu controversé présentement son histoire, parce qu'aujourd'hui, on se demande comment ça, il peut être rendu aussi loin que ça aujourd'hui. Et on va y arriver. Fait que si on fait un petit peu le fil des événements, Adam Newman, avant 2010, avait une autre entreprise avant de fonder WeWork, réussit à faire un petit peu d'argent en vendant ses parts de cette entreprise-là. Il décide en 2010 de cofonder l'entreprise WeWork, qui est une entreprise de coworking. De fil en aiguille, l'organisation grandit, mais à une vitesse très rapide, et il se met à croiser des gens de finance ou des financiers, des grands financiers de ce monde, et il croise à un certain moment donné une personne de l'entreprise SoftBank, qui est un des plus grands financiers mondiaux. Et la personne de SoftBank lui dit « Écoute, j'aime bien ta vision, mais tu vois pas assez grand. » Et les deux ensemble décident à ce moment-là de partner un petit peu, et SoftBank devient un des plus grands investisseurs à ce moment-là de WeWork en cours de route pour vraiment expandre le plan ou accélérer le plan d'expansion de WeWork à l'échelle internationale. Et là, WeWork se met à ouvrir des bureaux à des endroits de manière très rapide à travers le monde. Et pour ceux qui ont déjà visité les bureaux de WeWork, moi, j'étais un de ces gens-là de l'extérieur qui est venu voir c'était quoi, puis dit « Mon Dieu, comment ils font pour faire de l'argent? » Parce qu'en réalité, WeWork se présente un peu comme une entreprise technologique, mais la réalité du modèle d'affaires de WeWork, c'est simplement qu'ils prennent un bail à long terme sur une propriété et ils relouent à court terme
Exactement. C'est le seul actif, c'est des beaux commerciaux.
Exactement, c'est des beaux commerciaux. Et la grosse saga de tout ça, c'est que il y a d'autres entreprises comme, là je vais peut-être mal le mentionner, mais Regis, qui est un compétiteur un petit peu à WeWork, qui était là même avant, qui avait une évaluation d'entreprise qui était beaucoup plus faible que WeWork. Et WeWork avait une évaluation à des multiples qui était plus d'une entreprise de technologie, alors que tout le monde disait c'est pas vraiment une entreprise technologique. Oui, le branding est wow. Oui, il apporte un vent de fraîcheur. C'est comme le cool company in the gang. Ils ont quand même un bon back-end en arrière technologique pour essayer de... Il disait chez WeWork, avec des algorithmes sophistiqués, qu'il allait calculer à ce moment-là vraiment l'optimisation des baux, puis de l'espace, puis la capacité qu'ils auraient besoin éventuellement. Mais tout ça était quand même louche de l'extérieur, et surtout que c'est une entreprise qui était privée, donc impossible de voir vraiment la vraie rentabilité de WeWork à travers tout ça. Et là, ils se mettent à ouvrir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emplacements. Et le but, à ce moment-là, quand même, des financiers de l'extérieur, c'est d'arriver à ce qu'on appelle en anglais un IPO, donc d'arriver en bourse pour réussir à rentabiliser leurs investissements initiaux.
Et peut-être, Jonathan, un petit point à mentionner avant de continuer ici. Et ça, je veux juste le dire pour les gens qui nous écoutent, parce que je pense que c'est assez intéressant de sortir tous ces chiffres-là, ces dates-là. Au moment où est-ce qu'il y a cette croissance rapide-là, c'est ce que le marché demandait. Hein? Il faut s'en rappeler. C'est ce que le marché demandait. C'est-à-dire que il y a eu un moment, et là, on en a parlé très souvent sur le podcast récemment, comme quoi que ce n'est plus le cas, mais si on revient en 2015 à 2019, ce que le marché demandait, c'était de la prise de marché. Ce que les grandes banques demandaient, c'était de la prise de marché au détriment, et je tiens à le dire, au détriment d'une profitabilité. Donc, à un certain point, et là, tu vas en parler, il y a eu des montagnes russes avec WeWork, mais rappelons-nous que c'est ce que demandait le marché.
Effectivement, c'est vraiment le fameux top line, donc la ligne de vente en haut, même si c'est pas rentable en bas, on capture le marché pour éventuellement le rendre rentable. Mais il y avait une certaine opacité derrière tout ça qu'on voyait. Oui, il allait chercher des parts de marché, mais c'était quoi vraiment le vrai bénéfice en bas de tout ça? Et la problématique, c'est exactement, tu sais, là, moi, Antoine me fait un signe probablement du zéro avec la main, mais la problématique derrière tout ça, c'est que en s'en allant tranquillement vers une ouverture au marché boursier, ça l'égale transparence des chiffres.
Bien sûr.
Donc là, on peut plus cacher à l'infini là que l'entreprise n'est pas rentable à ce moment-là. Et il y a eu vraiment lorsque SoftBank a fait son dernier investissement, la valorisation de l'organisation tournait dans les quarantaines de milliards US pour WeWork, ce qui est placé une des startups là, les plus rapides en croissance et en valuation là, pratiquement à travers le monde. Et arrive 2018, on se rapproche d'un fameux IPO, une arrivée en bourse. Et là, une série d'événements commence à apparaître, commence à être ébruité par rapport à vraiment le vrai Adam Newman ou la gestion d'Adam Newman au niveau de l'organisation. Et là, il y a des rumeurs qu'il serait très, très, très un déficitaire, mais il y a des comportements qui ressortent en arrière-plan en tant que rumeurs, mais qui sont confirmés par certains joueurs probablement proches là, de l'organisation, qui questionnent énormément le comportement de Newman. Puis pour nommer quelques exemples, en 2018, Newman aurait demandé d'avoir un transport avec un jet privé des États-Unis jusqu'en Israël. Et rendu en Israël, certains membres de l'équipe de l'avion se sont rendus compte qu'il y avait une boîte complète de marijuana dans l'avion. Et ils ont avisé le propriétaire à ce moment-là du jet. Et les pilotes ont dit, c'est pas vrai, on débarquera pas personne en Israël, on repart puis on retourne aux États-Unis parce qu'ils avaient peur qu'ils soient tous accusés de trafic de drogue directement en Israël. Donc, ils ont été obligés de rebrousser chemin et revenir aux États-Unis. Et c'était pas juste des gens de travail qu'il y avait dans l'avion, il y avait des amis d'Adam Newman et ils ont été obligés à ce moment-là, eux-mêmes, se retrouver un autre vol pour revenir séparément. Donc, incident qui arrive, qui démontre un petit peu peut-être un problème de cohérence dans les valeurs là, d'Adam Newman. Et par la suite, la même année, il y a eu plusieurs autres événements qui ont ressorti, dont un événement qui s'est ramassé en cours par rapport à des anciens employés qui auraient été, excusez-moi l'expression en anglais, là, but harassed sexual, sexual harassment, donc qui auraient eu, je sais pas si tu m'aides pour la transcription.
En gros, il y a eu des allégations, des actions assez controversées envers des employés, bref, des choses qu'on doit pas faire.
Exactement. Et tout de suite après ça, ben à ce moment-là, il y a eu l'alcool qui était à volonté chez WeWork a été limité à 4 bières à ce moment-là par événement. Donc, ils ont resserré un petit peu tout ce qui était autour de l'alcool. Et il y a eu beaucoup de rumeurs par après qu'il y a beaucoup d'autres exécutifs qui ont tenté de demander à Adam Newman de sortir en tant que CEO parce que ça faisait pas de sens. Et un autre élément qui était très scandaleux, c'est qu'il aurait acheté des immeubles aux États-Unis, qu'il aurait loué après ça à WeWork. Donc, ça le place dans un certain conflit d'intérêts.
Bien sûr.
Par la suite, surtout si on s'en va dans un appel public à l'épargne, un IPO. Donc, plusieurs comportements dans la même année qui donnait le signe au marché peut-être que la gestion n'était pas faite correctement au sein de WeWork. 2019, après ces différents éléments-là, il a été demandé par le board de directeurs de l'organisation de sortir en tant que CEO. Il résigne de son poste et, selon certains documents, part avec 1,5 milliard en main en sortant de son
exact.
Poste de chez WeWork. Ce qui fait questionner à ce moment-là, mon Dieu, c'est fou d'avoir eu un certain comportement qui était jugé là, de manière négative, mais de sortir de là avec autant d'argent dans les mains, alors qu'en 2019, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens chez WeWork qui ont perdu leur emploi parce qu'il y avait vraiment beaucoup trop de monde. Ils ont réduit leur force d'employés avant la COVID. Et la problématique derrière tout ça, c'est que toutes les analystes de l'extérieur regardaient ça et disaient « OK, il y a une valorisation en ce moment-là d'au-delà de 40 milliards quand SoftBank était là, mais à ce moment-là, quand il s'est retiré, la valorisation tournait de mémoire aux alentours là, de 7-8 milliards.
Exactement.
Donc, il y a eu une très, très, très grande dévalorisation de l'organisation et lui part avec 1,7 milliard au bout de la ligne. Donc, ça fait comme un peu de non-sens ou du moins de l'extérieur, il y a un certain manque de cohérence dans ce qu'il a fait ou du moins de la résultante de tout ça à travers ça. L'histoire continue. Vous savez, la COVID est arrivée. Un des gros problèmes que tout le monde se pose, ou plutôt une des grandes questions que les gens se posaient de l'extérieur, c'est quand il va y avoir un ralentissement économique, qu'est-ce qui va arriver avec les gens d'entreprise comme WeWork qui s'engagent sur des contrats, les baux à long terme, et que leur clientèle à court terme n'est pas garantie. Donc, donc la COVID arrive, qui est probablement un des pires scénarios pour une compagnie comme WeWork. Et Adam Newman décide d'être complètement silencieux. Jusqu'à il y a quelques mois, il n'a fait aucune apparition publique durant ce temps-là.
Et ça vaudrait la peine, Jonathan, de mettre l'entrevue d'Adam Newman dans les notes de l'épisode. Parce que, et je veux redire ce que tu as dit au départ, c'est quelqu'un qui est très charismatique, un poil manipulateur. Là, je pense que ça va être important que les gens allez écouter un peu l'entretien. Vous allez comprendre le type de personnage. C'est quelqu'un qui pourrait vendre littéralement n'importe quoi à n'importe qui. C'est ce type de personnage-là. Donc, on peut comprendre qu'il a été capable de passer à travers certaines embûches-là.
Effectivement, puis tout à fait, je pense qu'il faut le mettre, et c'est hallucinant. Il se fait poser des questions là, qui sont des questions que beaucoup de monde ne voudrait jamais répondre de leur vie. Et il réussit à répondre d'une manière qu'on fait « Ah, mais crime, il a peut-être raison finalement. » C'est pas lui le problème. C'est hallucinant. Et Et vous remarquerez, on parle d'intelligence émotionnelle, de charisme. La majorité des questions qui sont très, très difficiles à répondre, il va toujours commencer sa phrase de la manière suivante. Il va toujours dire, je comprends que vous pensez ça, je comprends vraiment là, ce que vous avez en tête derrière ça et c'est comprenable. Il part avec ça, puis après ça, il va se défendre. Puis donc, il essaie vraiment de dire, je me mets dans vos souliers et je comprends votre position. Maintenant, voici ce qu'il y a en avant. Donc, c'est une preuve d'intelligence émotionnelle extrêmement élevée. Il fait ça pratiquement à toutes ses questions pour au moins aller chercher un petit peu de sympathie des gens qui écoutent les réponses au bout de la ligne.
C'est un exemple parfait de quelqu'un qui comprend exactement ce que la personne devant elle est en train de penser et pourrait penser. Parce que c'est des grosses allégations qui portent contre lui, là. C'est des gros soucis en tant qu'organisation, juste au niveau financier, là. Niveau financier, c'est important de le dire, c'est une organisation WeWork totalement formidable. Moi, nos bureaux sont ici depuis plusieurs années. Incroyable concept. Mais au final, pour créer un incroyable concept, ça coûte de l'argent. Et une organisation, ça ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche, là. Hein? Et une organisation qui perd des milliards de dollars à chaque trimestre, à un certain point, à un moment donné, a à rendre des comptes. Et c'est ce qu'il a fait et il s'en est tiré avec 1,5 milliard. C'est quand même assez fascinant, là.
C'est impressionnant. Puis je donne une petite tranche de vie à travers tout ça. C'est qu'en 2019, on avait un projet d'agrandissement de nos bureaux sur la Rive-Nord de Montréal et on évaluait la possibilité de créer plus grand nos espaces pour accueillir un coworking un peu technologique avec nous. On avait visité les bureaux de WeWork, on avait visité d'autres emplacements et on essayait de rouler les maths. On se disait, mon Dieu, c'est impossible que ça soit rentable. Ça
impossible.
Fait pas de sens. Physiquement, c'était impossible avec la quantité de choses qu'ils donnent et tout le gravy qu'ils mettent autour dans leur bureau et le staff. Et là, ça donne un peu l'idée de tout ça. Mais bref, fast forward jusqu'à aujourd'hui, WeWork est maintenant public en bourse aujourd'hui. Il y a eu un appel public à l'épargne en mai 2021. Adam Neumann est toujours resté silencieux là-dessus. Comme je dis, il a sorti dans une entrevue dernièrement pour venir défendre sa position. Mais ce qui est encore plus surprenant là-dedans, c'est que dans les derniers mois, Adam Neumann est sorti avec deux nouvelles entreprises au marché. Donc, Flow Carbon et l'entreprise Flow. On n'a pas encore tous les détails de qu'est-ce que vont être vraiment ces entreprises-là au final. Cependant, l'entreprise Flow qui est sortie a réussi à aller chercher un financement vraiment hallucinant de Andreessen Horowitz pour son fonds d'investissement. On parle, j'ai pas les chiffres proches, mais de mémoire, c'était aux alentours de 350 millions de dollars US. Donc, il y a quelqu'un de brillant à travers le monde. Puis Andreessen Horowitz est derrière beaucoup d'entreprises technologiques dans les premiers investisseurs. Pensez-y, là, on parle de Facebook, Airbnb et compagnie. Donc, c'est pas quelqu'un qui sort de nulle part, là. C'est quelqu'un d'extrêmement brillant qui a vu le fil des événements entièrement arriver avec WeWork et qui a dit, je vais te faire un chèque de 350 millions US après tout ça, là, pour ta nouvelle idée. C'est hallucinant. C'est complètement hallucinant parce qu'il met sa crédibilité probablement en jeu lui également de son côté. Je disais, Andreessen Horowitz, c'est le fond, c'est Mark Andreessen en arrière de tout ça. Excusez-moi pour le petit lapsus de nom puis d'information, mais c'est complètement fou. Et l'idée de Flow, ce qu'on en sait présentement aujourd'hui, ça serait un peu un modèle similaire à une sous-branche de le We Company, qui était la maison mère de toutes les entreprises We dont WeWork. Mais là-dedans, il y avait une sous-branche qui s'appelait WeLive, qui était un peu du co-working space pour les gens qui habitent dans le fond dans leur maison, un peu comme une auberge de jeunesse, mais à long terme, parce que tu peux louer de l'espace avec de l'espace commun pour les gens autour. Et Neumann, présentement, ce qu'on en sait, aurait acheté pour à peu près 1 milliard de dollars de propriété dans le sud des États-Unis. Et ça ferait partie probablement de son plan maître de Flow, d'essayer de rendre plus abordable ou du moins plus communautaire l'accessibilité à la propriété. Et dans ce qu'on entend présentement, son leitmotiv derrière tout ça, c'est d'aider les gens à accéder à la propriété pour ceux qui sont plus en mode locataire présentement. Il y a une rumeur qu'il y aurait une genre de fédération qu'on louerait un endroit, mais il y aurait plein de services qui viennent avec tout ça. Donc, on n'a pas encore tous les détails, mais ce qu'on sait, c'est que le fonds d'Andreessen Horowitz a fait un chèque de 350 millions US et que Neumann aurait mis une grande partie de sa fortune dans cette entreprise-là, qui est tout à fait hallucinant. Et ça va être vraiment intéressant de voir dans les prochaines semaines, prochains mois, comment tout ça va se dérouler, un petit peu comme la saga d'Elon Musk. Je pense que ça va être intéressant de suivre ça devant nous parce qu'ils vont tenter de révolutionner quelque chose en avant de nous, mais comment ils vont le faire. Est-ce qu'ils vont répéter un WeWork 2.0 avec un grand échec au bout de la ligne? C'est vraiment à voir. Ça va être vraiment intéressant à regarder tout ça devant nous, Antoine.
Qu'est-ce que tu apprends de ça, Jonathan? Parce que je pense que c'est ça qui est intéressant à ressortir là, avec notre audience aujourd'hui. C'est quoi les leçons? Hein? C'est quoi les leçons qui ressortent de là? Je serais curieux de t'entendre. J'ai mon opinion à ce sujet-là. Et toi, de voir là un joueur qui a été dans le milieu technologique, immobilier, peu importe c'est quoi la catégorie spécifique qu'on donne à WeWork aujourd'hui, qui a monté une organisation qui est quand même assez fabuleuse. Il faut donner à César ce qui revient à César. C'est gros, c'est beau WeWork, c'est installé dans plusieurs pays. Clairement, il y a des enjeux financiers, mais tout de même, c'est une organisation qui vaut quelques milliards, une entreprise publique même. Qu'est-ce que tu retiens de ça? Qu'est-ce que tu retiens de ça? Parce que c'est assez fascinant, là.
Moi, je retiens deux choses. C'est que la première des choses, c'est plus le côté humain pour ramener au premier sujet qu'on a. C'est qu'une personne qui a une forte intelligence émotionnelle est capable de, je pense, d'influencer des gens d'une manière incroyable, même s'il a malheureusement fait des choses qui peuvent être perçues négatives. C'est assez impressionnant. Je pense pas qu'il y aurait beaucoup d'autres humains à travers la planète qui auraient pu convaincre quelqu'un de faire un chèque pratiquement en blanc de 350 millions de dollars US après avoir fait tout ce qui est mentionné que Newman a fait. Fait que première des choses, je dirais, c'est vraiment, c'est quelque chose, je pense, qui peut avoir un grand pouvoir sur les gens autour. Parce que c'est toujours une question d'humain à humain à travers tout ça. Puis ce deal-là qui vient de signer, c'est de l'humain à humain. Donc, je pense que Adam Newman connaît la partie puis la game derrière tout ça. Puis il a de l'air à vraiment bien l'exécuter. Puis peut-être pas pour des bonnes raisons au bout de la ligne. Fait que ça, c'est la première chose que je retiens. La deuxième chose que je retiens, c'est que dans l'économie qu'on a à l'heure actuelle, il y a toujours des cycles où les entreprises ou les financiers de l'extérieur vont mettre une pression sur le marché, de toujours bouger entre on veut vraiment aller chercher du volume au détriment de la profitabilité et parfois ça bouge à l'inverse. Et c'est un peu ce que Newman disait. Moi, de 2012 à 2019, on me demandait là, de faire des ventes, peu importe si c'était correct en bas. Puis c'était ma commande que j'avais reçue de SoftBank et des autres. Puis là, aujourd'hui, je me fais reprocher qu'on était déficitaire. Et SoftBank a probablement une grande part de responsabilité derrière tout ça, d'arriver avec beaucoup d'argent puis de dire, allez-y, vous devez brûler de l'argent au maximum, aller chercher des parts de marché. Donc, je pense qu'il y a des cycles et malheureusement, des fois, les CEO vont faire les frais de ces pressions-là externes. Je dis pas que c'est pas de la faute à Adam Newman, mais il y a quand même des forces externes qui vont venir influencer de comment on doit ou on devrait gérer nos entreprises. Et c'est quand même nous, les présidents, au bout de la ligne, qui est au bat au final. Fait qu'il faut faire attention à ces pressions-là. Et on en est quand même responsable au bout de la ligne. Et on est responsable de vie de beaucoup de gens. Là. Adam Newman, cette gestion-là, quand ça a reviré de côté, il y a combien de gens qui ont perdu leur travail derrière tout ça? Donc, mais combien de gens ont gagné un travail avant qu'ils n'auraient peut-être pas gagné aussi? Donc, c'est vraiment c'est spécial. Et c'est des cycles, je pense, présentement, on est dans un cycle plus de faire attention à la ligne du bas. Mais c'est, je pense, une question de trimestre ou d'année avant que ça retourne encore de côté. Puis ça vient impacter nos organisations. Antoine, de ton côté, comment tu vois ça? C'est quoi tes...
Je pense que directement ici, on est capable de voir une grande différence en termes de culture. Je pense que la culture américaine est beaucoup plus propice au pardon et on réessaye que ce qu'on serait capable de voir au Québec. Donc, je crois fondamentalement que quelqu'un aurait fait ça au Québec. Ça passe pas, là. Je pense pas qu'il est capable d'aller lever autant d'argent par la suite. T'sais. Il y a des gens qui ont eu des échecs au Québec et qui ont été capables de relever de l'argent par la suite, mais ça a été difficile. Mais des gens qui ont eu des échecs et qui ont eu des allégations d'inconduite sexuelle ou de harassment, comme tu le dis, ou bref, des choses un petit peu plus importantes, qui ont eu une série à leur sujet démontrant le train de vie totalement inexcusable quasiment, et ça, on n'en a pas eu, tu sais. Donc, pour moi, je trouve qu'il y a une grosse différence en termes de culture. Et le dernier point, c'est qu'il y a un contrôle de la narrative. Je pense que les gens qui ont fait cette série-là sur WeWork ont témoigné ce qu'ils ont vu. Les gens chez WeWork ont témoigné ce qu'ils ont vu. Et Adam Newman a témoigné ce qu'il a vu, lui. Et il contrôle sa narrative. Et je pense qu'il est capable de bien contrôler sa narrative autour des investisseurs. Et au final, de dire, ouais, il m'accuse de ça. Mais c'est qui l'a construit, l'entreprise? Donc oui, j'ai des erreurs. J'ai fait des erreurs. Je vais peut-être en refaire, mais je me suis amélioré. Mais tout de même, je suis capable de construire des entreprises ayant des valorisations à quelques milliards de dollars. Donc au final, si tu contrôles bien ta narrative dans une culture qui peut te donner un petit peu plus de permission, je le crois, t'es peut-être capable de t'en sortir.
Effectivement. Puis il faut pas oublier, en arrière de tout ça, quand il a dû sortir de son rôle de président, il a dû laisser aller ses actions votantes de l'organisation. Donc, SoftBank avait un grand avantage au bout de la ligne à ce que ce mouvement-là fasse, même s'ils ont dû mettre beaucoup d'argent dans l'organisation par la suite. Donc, il y a peut-être, c'est un bon point que tu dis, il y a une narrative, mais de tous les côtés, tu sais, de l'intérieur de l'organisation, du côté d'Alan Newman, mais il y a la narrative qu'on ne voit pas, qui se joue un peu plus dans l'ombre en arrière, qui est la narrative du financier puis des actionnaires en arrière. Et eux sont jamais vraiment sortis publiquement par après. En tout cas, du moins, ça a fait moins de bruit si c'est le cas. Mais chacun a sa narrative et où se trouve la juste vérité, mais c'est dans les yeux de chaque personne.
Exact. Beaucoup de nuances. Beaucoup
effectivement.
De nuances. J'entends d'autres choses à rajouter avant que je te laisse filer?
Je pense que ça fait le tour pour aujourd'hui. Deux sujets intéressants. Voilà.
Bien sûr. Non, je pense que c'était assez intéressant. J'espère que les gens qui nous écoutent ont trouvé ça fascinant et intéressant également. Merci beaucoup, Jonathan. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.